Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Quand l'accueil des réfugiés ukrainiens se heurte aux problèmes de logistique, l'Irlande en fait la douloureuse expérience. Le gouvernement avait annoncé pouvoir accueillir 100 000 réfugiés, mais avec 25 000 arrivés à ce jour, les capacités du pays sont déjà presque à saturation. D'ici quelques jours, des milliers d'Ukrainiens pourraient donc se retrouver sans hébergement. Pas question pour autant de limiter les arrivées, estime le gouvernement. Toutes les solutions sont à l'étude pour trouver des places, de la réquisition des logements touristiques à l'aide financière pour les familles d'accueil, parfois de manière un peu brouillonne. Dans l'urgence, ce sont les réfugiés ukrainiens qui doivent composer avec les failles du système. C'est le reportage à Dublin de Laura Twachanoff.
Le troisième quart de la journée vient juste de déposer 50 Ukrainiens au City West, un hôtel 4 étoiles à Dublin. Après une nuit blanche à voyager, Lydie et Natalia espèrent trouver un lit pour ce soir.
On voudrait un logement pour deux adultes et deux enfants. À Cork, on nous a dit qu'il n'y avait plus rien et qu'on devait venir à Dublin.
Pour l'instant, à l'étage, on n'a que des matelas sur le sol.
Tous les logements sont complets, alors les deux femmes originaires de Kiev devront passer la nuit ici, dans cette salle de conférence transformée en dortoir.
C'est dur, il n'y a pas d'intimité ici. On va essayer de trouver une chambre dans l'hôtel, mais c'est sûrement trop cher. Une deuxième nuit sans sommeil, ce serait difficile, mais on va essayer de rester forte et heureuse.
On n'entend pas les bombes ici au moins. Mais j'aimerais que mon enfant dorme dans un vrai lit. Pour nous, ça ne fait rien. Mais pour eux, c'est difficile.
On est ensemble et on va se relayer pour surveiller les enfants. Une heure de sommeil pour elle, une heure pour moi. Ça va nous rassurer ensemble parce qu'on ne connaît pas les autres personnes dans la pièce. Je n'ai jamais vécu dans ces conditions. L'Irlande aide beaucoup les Ukrainiens et nous devons être reconnaissants. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas se montrer compréhensive parce que nos parents et nos maris sont restés là-bas. Demain, après une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux, mais pour l'instant, nous sommes en colère.
C'est une course contre la montre pour la Croix-Rouge qui doit maintenant vérifier les 25 000 propositions d'hébergement de familles irlandaises. Deux centres d'appel ont été créés, mais le problème, comme l'explique Liam O'Dwyer, le secrétaire général, c'est que la moitié tombe à l'eau.
Child protection is a big issue.
La protection de l'enfant, c'est importante. Si c'est une mère avec enfant ou des parents avec enfant, alors la police doit contrôler l'identité de l'hôte et vérifier qu'il n'a pas de casier judiciaire, en particulier pour des faits de maltraitance. Ces contrôles prennent du temps. Et puis il y a toujours 30 ou 40% de gens qui sont injoignables et ne répondent ni au téléphone ni au mail. Ils ont peut-être changé d'avis. Mais ça se comprend, dans le feu de l'action, ils ont fait une offre qu'ils ont ensuite regrettée.
D'ici la fin du mois de mai, il pourrait manquer plus de 8000 lits avec un délai d'attente d'un mois. Alors les particuliers doivent être davantage encouragés à ouvrir leurs portes, milite Nick Henderson, le porte-parole du Conseil national des réfugiés.
Les gens proposent ces hébergements de bon cœur, mais ils redoutent aussi le coût de la vie et les factures. Un forfait de 400 euros pourrait les rassurer. Il y a environ 62 000 maisons de vacances en Irlande. Alors admettons que 5% de ces logements soient loués à des réfugiés ukrainiens pour 6 mois ou 1 an, on pourrait loger beaucoup de familles.
That would actually accommodate quite a large number of households.
Autre recours du gouvernement, rénover des bâtiments communaux ou religieux abandonnés pour les transformer en hébergements. Des chantiers accélérés devraient être lancés dans les prochaines semaines.
Favoriser le bénévolat, l'action sociale dans la société des valeurs qui ne vont pas forcément de soi. En Lituanie, l'école a donc choisi d'en faire la promotion, voire même de les rendre obligatoires. À partir du collège, les élèves lituaniens doivent effectuer des heures sociales. Ces heures comptent dans le livret scolaire de l'année. Elles sont aussi un complément au cours d'éducation civique qui n'est enseigné qu'à partir du lycée. Elles peuvent même donner des points supplémentaires pour obtenir une place financée par l'État à l'université. Dans les prochaines réformes de l'éducation, le bénévolat sera également pris en compte dans l'examen de fin d'études du secondaire. À Vilnius, c'est le reportage de Marielle Vitureau.
À 16h, presque tous les jours, Gertruda se dépêche pour aller au chenil, géré par une association. C'est un lieu qui recueille chiens et chats abandonnés. Cette activité sociale peut donner des points supplémentaires à la jeune lycéenne pour entrer à l'université. Et avec ses heures de bénévolat, elle a trouvé sa vocation.
J'aime les animaux depuis toute petite, mais je n'avais jamais pensé à devenir vétérinaire. J'avais peur d'avoir toujours le cœur serré en voyant des animaux blessés. Mais depuis que je suis bénévole ici, j'ai compris que ce n'était pas le cas. J'ai appris à reconnaître les maladies. Quand j'ai fait ma première piqûre à un chat, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire, les soigner.
Comme beaucoup de ses camarades, ses parents ont dû la pousser à faire ses heures de bénévolat quand elle était plus jeune. Une obligation de plus dans son emploi du temps jusqu'à ce que le déclic se fasse.
J'ai fini par comprendre qu'on nous les imposait non pas pour nous épuiser, mais pour nous faire grandir.
Olga dirige le chenil. Elle voit passer de nombreux jeunes, ce qui la réjouit. Et elle ne prend pas cette tâche à la légère. Elle leur donne un vrai travail à faire.
Quand ils arrivent pour la première fois, les jeunes commencent par promener les animaux. C'est seulement une fois qu'ils ont fait connaissance avec tous les animaux qu'on leur propose de nous aider à les soigner. Il y a beaucoup de règles à respecter. C'est une sacrée responsabilité.
Mantas Karanauskas est professeur de géographie au collège. Il est le professeur principal d'une classe de 6e. Ses élèves doivent effectuer 10 heures de bénévolat durant l'année. À cet âge-là, il s'agit essentiellement pour eux de participer à la vie du collège. On est dans les enseignants, les bibliothécaires. Une fois par mois, il en discute avec sa classe.
Il ne s'agit pas d'acquérir un savoir académique. Ça, c'est le rôle de l'école. En revanche, ils acquièrent des compétences sociales, comme savoir mieux communiquer ou travailler en équipe.
Ces heures de bénévolat ont été introduites dans le programme scolaire à partir de 2005, sur le modèle des cursus internationaux qui font une grande place au social. En revanche, la mise en application est plus difficile. En Lituanie, ce sont les municipalités qui sont chargées de l'éducation. Et il n'est pas toujours évident de convaincre les responsables locaux de s'engager auprès des directeurs d'école pour proposer des activités intéressantes aux enfants. Dans certaines écoles, ces heures restent une punition pour les écoliers comme pour les professeurs. Irena Raudiene, en charge de l'éducation secondaire au ministère de l'Éducation, on est consciente.
C'est un long processus qui nécessite que tout le monde se mette d'accord sur les activités proposées. Il faut être tolérant sur la question. Surtout, les écoles doivent comprendre l'intérêt de ce bénévolat, alors que beaucoup de personnes ont encore de mauvais souvenirs des travaux collectifs obligatoires dans le pays. Ils pensent qu'il s'agit de la même chose.
Le ministère de l'Éducation prévoit une grande réforme des programmes scolaires à l'horizon 2023. Et les heures sociales vont devenir obligatoires pour obtenir la maturité, l'équivalent lituanien du baccalauréat. Une réforme qui accompagnera une transformation plus profonde de la société déjà en cours, comme le constate Mantas Karanauskas.
Je vois de plus en plus de témoignages sur les réseaux sociaux de mes amis et connaissances qui sont devenus bénévoles dans des associations qui aident par téléphone les gens qui ont besoin d'aide psychologique. Avant, j'en entendais beaucoup moins parler.
La pandémie et la crise des migrants ont en partie accéléré cette évolution.
Small vacation.
Le 24 avril dernier, le milliardaire américain Elon Musk s'est acheté Twitter. Ce libertarien total a promis de rétablir la libre parole sur le réseau social. Modérer, c'est censurer, explique-t-il. Alors l'annonce de ce rachat a évidemment provoqué beaucoup de remous en Europe. Franceline Berrettier les a observés pour son œil européen.
Beaucoup de personnalités politiques européennes ont réagi avec enthousiasme au rachat de la plateforme par Elon Musk. Enfin, à l'extrême droite. En Belgique, Bart Klaas, député du Vlaams Belang, se réjouit d'une très bonne nouvelle pour la liberté de penser. Pour le responsable numérique d'Éric Zemmour, Elon Musk est carrément une muse. Il lui a consacré 16 tweets en une semaine. Côté italien, Davide Quadri, de la Ligue, y voit un succès à la barbe des discriminations progressistes. Alors, tout va changer ? Ben je ne sais pas. Certains analystes estiment que Musk aura du mal à modifier les règles de modération. Et puis, les bannis de Twitter se retrouvent déjà ailleurs. Il y a même ceux qui ont leur propre application, comme le Vlaams Belang belge. Son chef en fait la promo.
Toi aussi, tu en as marre des infos qui parlent d'émeutes de jeunes ou d'hommes perturbés qui commettent des attentats? Tu n'en peux plus des géants de la tech qui interdisent des photos d'enfants innocents déguisés en Zwarte Piet?
Le Zwarte Piet, c'est un compagnon de Saint-Nicolas. Il passe par la cheminée, il est noir de suie. Les Belges se peignent donc le visage en noir quand ils se déguisent, ce que certains trouvent raciste. Le Vlaams Belang n'en peut plus de cette censure des géants du numérique. Alors il vous propose son application sur App Store ou Google Play. Oui, deux géants du numérique.
La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même.
Peut-il y avoir des limites à la liberté d'expression ? Pour la lanceuse d'alerte Frances Haugen, ancienne collaboratrice de Facebook, les réseaux sociaux menacent clairement les démocraties.
Je suis ici aujourd'hui parce que je crois que les produits de Facebook blessent les enfants, accentuent les divisions, affaiblissent nos démocraties et encore bien d'autres choses. La direction de l'entreprise sait comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs, mais ils ne feront pas les changements nécessaires, car ils ont mis leur profit au-dessus de l'intérêt des gens.
Son appel a été entendu à Bruxelles. L'Europe a fait voter il y a quelques jours une législation qui impose aux géants du numérique de modérer. Il y a le DMA, c'est le volet économique. En gros, il veut empêcher les monopoles. Et le DSA, Elon Musk n'a qu'à bien se tenir. C'est ce que disait, en d'autres termes, le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, sur Radio France.
Il sera obligé de respecter désormais nos règles de droit. Je le lui ai dit et il m'a répondu, mais il n'y a aucun problème, je respecterai le droit.
Bien joué la commission.
Je rappelle que l'Union européenne, c'est 450 millions de consommateurs, on est une fois et demie plus gros que le marché américain. Donc je pense qu'il ne voudra pas ne pas avoir la possibilité de bénéficier de ce marché en offrant ses services. Mais s'il offre ses services en Europe, il respectera, quelle que soit la volonté qui est la sienne en dehors de l'Union européenne, la zone de droit désormais, qui est notre espace informationnel, protecteur des individus et protecteur de notre état de droit.
D'un côté, l'extrême droite qui se réjouit de pouvoir bientôt s'exprimer librement sur Twitter. De l'autre, Bruxelles qui régule davantage. C'est contradictoire, non ? En fait, l'Europe n'a que la réglementation pour agir. Et la loi peut être contournée. Vous vous souvenez du RGPD, le Règlement général pour la protection des données ? Mais si ces dizaines de mails reçus en 2018 pour accepter de nouvelles conditions d'utilisation, le RGPD européen est un modèle pour le monde. La Californie s'en est même inspirée. Et le RGPD est facilement contournable. Car les entreprises ont toujours un coup d'avance technologique. L'Europe n'arrive pas à être cette troisième voie entre libertarisme absolu et autoritarisme. Et ça ne risque pas de s'améliorer. Un accord pour transférer des données personnelles aux États-Unis vient d'être annoncé à Bruxelles. À l'heure où les tensions géopolitiques angoissent, plus question de faire la fine bouche sur la protection des individus.
Et il ne s'agit pour l'instant que d'un accord de principe entre Bruxelles et Washington pour le transfert des données personnelles. Il faudra des mois de négociations, mais il intervient à un moment tel que nombre d'acteurs du numérique ont parlé d'un chantage. Les États-Unis se disant prêts à nous fournir du gaz pour peu qu'on leur donne accès à une autre richesse, nos données personnelles, notre identité numérique, notre comportement sur la toile, notre géolocalisation, des informations qui valent de l'or, mais que Bruxelles et la Cour européenne de justice refusent depuis des années de livrer outre-Atlantique, où la protection de la vie privée est jugée insuffisante. En Autriche, le meilleur défenseur indépendant des droits des internautes ne s'est pas trompé sur les dangers à venir, à Vienne, Céline Béal.
Une petite ONG basée en Autriche s'est déjà établie en Europe comme la championne de la protection des données personnelles, dans le sillage de son fondateur, Max Schrems, l'ancien étudiant en droit qui avait fait tomber le premier accord transatlantique sur le sujet en passant par la Cour de justice de l'Union européenne. Cette ONG s'appelle NOIB, c'est l'abréviation de None of Your Business, qui veut dire « ce ne sont pas vos affaires ». Il semble loin le temps où le jeune Max Schrems pourfendait à lui seul le système mis en place par les géants américains du numérique. Aujourd'hui, 19 personnes travaillent dans son organisation fondée en 2018. Le Belge Romain Robert y est responsable des activités juridiques. L'annonce d'un nouvel accord sur le transfert transatlantique de données le laisse pour le moins sceptique.
Mais on nous a déjà fait l'annonce deux fois. Hein, et par deux fois, on a eu deux annulations de cet accord devant la Cour de justice. Les deux problèmes mentionnés par la Cour de justice n'ont, à ma connaissance, toujours pas été réglés par le droit américain.
Nom, adresse, photo, achat, centre d'intérêt. Les utilisateurs partagent, sans forcément s'en rendre compte, toutes ces informations avec toutes sortes d'applications et de services sur Internet. Or, les plus grands d'entre eux sont américains et nos données transitent donc par-delà l'Atlantique. Or, si elles ne sont pas protégées, elles peuvent être détournées, que ce soit pour des objectifs commerciaux, d'espionnage ou de lutte contre le terrorisme. En 2020, la Cour de justice de l'Union européenne avait statué que le précédent accord sur ces transferts était illégal. Premièrement, parce que les Européens n'avaient pas la possibilité de saisir la justice américaine en cas d'abus. Et deuxièmement, parce que la surveillance exercée par les services secrets outre-Atlantique était considérée comme disproportionnée. Ces points seront-ils corrigés dans le nouvel accord ? Les détails ne sont pas encore connus, mais l'équipe de NOIB a déjà annoncé qu'elle est prête à saisir à nouveau la justice. Le juriste Romain Robert rappelle que non seulement l'accord précédent avait dû être annulé, mais aussi celui de 2015. C'est l'affaire qui avait lancé Max Schrems. On en est donc au troisième accord.
Déjà par deux fois, la Cour a considéré que ces accords étaient illégaux, à savoir non compatibles avec le droit européen. Il est un peu fatigant de constater qu'il faille aller par deux fois déjà dans la Cour de justice pour constater que ces accords sont illégaux, mais que dans la pratique, ces transferts ont quand même lieu.
Actuellement, en absence d'un nouvel accord, le flou règne et beaucoup d'entreprises ne respectent pas la loi, si l'on en croit NOIB. Comment le juriste explique-t-il que la situation soit aussi embourbée ?
Il y a des enjeux géopolitiques qui sont évidents. Interdire le transfert de données entre l'Union européenne, qui est un des premiers marchés mondiaux du numérique, vers les États-Unis, qui sont les premiers fournisseurs mondiaux de technologie, notamment avec les fameux GAFAM, qui sont tous des fournisseurs de services américains, entraîne des enjeux économiques, même géopolitiques, auxquels, j'imagine, les autorités ne sont pas étrangères.
Pour Romain Robert, difficile de fermer le robinet des transferts de données alors que les marchés concernés brassent des milliards en euros et en dollars.
À noter que les actions de Max Schrems ont déjà eu des effets notables. L'interdiction en Autriche et en France de l'outil de mesure d'audience Google Analytics et l'obligation faite à toutes les entreprises publiques françaises d'héberger leurs données dans des sociétés de droit européen. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Donatien Cahu. Retrouvez-nous sur notre site. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. À demain.